Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quirinot.
Les grandes gueules du sport, ce dimanche matin avec Marc Madiot, avec Julien Beneteau, Christophe Cessieux et Jérôme Pinault. Merci de nous rejoindre. Si vous vous réveillez tranquillement, tiens, j'ai vu quelques messages. Certains ont fait leur petite sortie ce matin. On sont sur le home trainer. Dites-nous ce que vous faites en écoutant les GG en podcast aussi.
Mais si dans l'Ouest, dans l'Ouest, c'est home trainer obligatoire en ce moment.
Ah oui.
Dans le Sud aussi. Dans le Sud aussi, ça pleut, ça pleut.
Il neige dans l'eau, il pleut en Bretagne, c'est fou.
C'est l'hiver en France.
L'hiver en France. Et puis cet été, il va faire chaud, hein, je vous le dis.
Ils annoncent chaud en juillet.
Normalement, en juillet, août, il va faire,
mais va faire chaud. A priori, faites attention.
Marc, tu les entends. Un petit peu de pluie, ils sont pas roulés.
Il est mayenné, donc tu veux la pluie,
En fait, historiquement, on a toujours eu beaucoup de chance en Mayenne, notamment dans le sud de la Mayenne.
On a toujours un bon microclimat.
On a la douceur de la boule qui vient jusque.
Non, mais de toute façon, c'est bien connu. Il y a la Côte d'Azur et la Mayenne, hein, pour le soleil.
Et nous, on se plaint jamais.
Vous avez pas mis de boue aussi, quand même.
On est heureux dans les conditions météo que nous avons. Et il fait bon vivre.
Et c'est l'office du tourisme de Laval.
Mais il a la bonne intonation pour nous décrire le bonheur.
Bien sûr.
On est heureux.
Heureux à la Mayennaise.
Allez, vous vous retrouvez la première heure des grandes gueules du sport en podcast. Évidemment sur toutes les plateformes. En fin d'émission, participez au jeu du sport avec vos GG, retrouvez, remportez même 200 euros de bons cadeaux à valoir sur le site levent-à-la-française.com. Vous retrouvez des bracelets ajustables, personnalisables, confectionnés, made in France. Franchement, il y a moyen de faire de beaux cadeaux. Pour remporter votre bon de 200 euros, appelez le 3216, touche 4, ou envoyez jeu J-E-U au 7-32-16, jeu J-E-U au 7-32-16. Dans quelques instants, on ira à Kitzbühel pour le début du slalom. Mais d'abord, on peut être une légende du jeu et parfois faire n'importe quoi, n'est-ce pas, monsieur Djokovic?
RMC, le ring des GG.
Être capable de se parler à nous-mêmes en se disant, attention, là, tu es en colère, donc si tu fais rien, tu vas perdre le contrôle, tu vas agresser.
Why is it two games? First, okay, second one was on track. I was on the ball.
Don't worry.
Pratiquer les time out, c'est-à-dire des temps de pause. On se sort un petit peu de la situation, le temps de ventiler un peu sa colère.
It's honestly, it's ridiculous. You are telling me it's not a warning, but then you give me a warning.
Be happy.
On sort de la situation, on respire avant de revenir en ayant fait baisser un peu l'intensité.
Don't worry.
Et se dire, ok, je reprends ma colère tout à l'heure, là, j'essaie de la faire baisser.
Il a frôler la disqualification en balançant une balle avec une violence inouïe. C'est passé à un mètre d'un ramasseur.
Et oui, c'était en direct hier dans les grandes gueules du sport. Le coup de sang et les excuses, on va les entendre de Djokovic à l'Open d'Australie. Hier, le Serbe, en quête d'un 25e grand chelem, a été tout proche de revivre la catastrophe de l'US Open 2020 quand il avait été disqualifié pour un geste malencontreux. Souvenez-vous, dans un moment de frustration, il n'en a pas manqué hein, contre son adversaire néerlandais hier, en dépit de sa victoire en 3-7. Djoko a expédié à pleine vitesse et du fond du court une balle qui n'est passée qu'à quelques centimètres de la tête d'une ramasseuse de balles. Celui qui est devenu le premier joueur à 400 victoires en grand chelem a fait son mea culpa après la rencontre.
Oui, je me suis excusé pour ça, ce n'était pas nécessaire et c'était dans le feu de l'action. Oui, j'ai eu de la chance et je suis désolé d'avoir causé du stress au ramasseur de balles ou à quelqu'un d'autre.
Djokovic qui affrontera le 16e mondial tchèque Jakub Mencik demain. Les GG, je vous pose cette question ce matin. La nervosité de Djokovic va-t-elle le plomber? J'ai un oui, Marc Madiot, et qui va être soutenu par Eric Salio dans quelques instants, entre envoyé spécial à Melbourne. Et trois noms, Julien Beneteau, Jérôme Pinault et Christophe Cessieux, sur le compte X des grandes gueules du sport où vous votez. Pour l'instant, vous dites oui à 51%. Donc c'est un vrai débat entre nos auditeurs ce matin. On vous attend au 32-16. Du coup, c'est le nom qui part derrière. Mathieu Bennett, pourquoi non, la nervosité de Djoko ne va pas le plomber?
Pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on l'a entendu dans le petit enrobé où, de présentation où on a entendu les colères de Djokovic qui ne datent, c'était pas des sons du match d'hier. il a toujours été comme ça. Il a toujours été comme ça. C'est pas comme Federer. Il a toujours été un peu nerveux. Il a peu s'agacer contre l'arbitre, contre le public, contre lui-même. Ça l'a pas empêché de gagner 24 grands chelems. Son geste d'hier, c'est pas du tout de l'énervement. C'est un geste, oui, il jette une balle, mais je l'ai regardé. Il y a le truc, c'est qu'elle passe pas loin d'un ramasseur. Donc si elle touche le ramasseur, ok. Ses disqualifications, il l'a déjà eu, et quand il a été disqualifié, c'était beaucoup plus nerveux. Mais le geste d'hier, c'est un énervement, c'est un agacement. Il peut ne pas avoir de chance et que ça touche le ramasseur, et le règlement fait qu'il peut être disqualifié. Mais ça le plombe en rien du tout. D'ailleurs, il s'est excusé. Il est en huitième ou en quart de finale. Il est tranquille. Il a 38 ans. Il est toujours là. Il a toujours été comme ça, Djokovic. C'est pas Federer qui maîtrisait, qui montrait rien.
Oui, enfin, au début de sa carrière, Federer, il maîtrisait pas tout.
Il a appris à se
Et au début de sa carrière, vous l'avez déjà vu sur le circuit professionnel s'énerver, Federer? C'était quand il était chez les jeunes. Pas quand il était sur le circuit pro.
Non, mais toi, ça t'a pas alarmé.
Non, parce que, comme le disait Julien, on est habitué avec Djokovic. Ce genre de comportement, il le rappelait, cette disqualification à New York en 2020 qui lui avait causé du tort là en l'occurrence, donc il avait dû abandonner. Mais le mec essaye tellement de tout contrôler dans sa vie, en termes d'alimentation, en termes de ce qu'il ingère ou non dans son corps. On se rappelle d'un autre truc qui justement lui avait fait du tort dans sa carrière, c'est qu'il avait refusé de se faire vacciner, avait été au bout de son choix, au bout de sa volonté, et avait dû quitter l'Australie une main devant, une main derrière. Il est tellement en contrôle que quand un coup lui échappe, eh bien c'est quelque chose qu'il n'arrive pas à admettre, qu'il n'arrive pas à gérer.
Non, mais il s'excuse
parce qu'il sait qu'il a frôlé la correctionnelle en se faisant disqualifier. Mais c'est pas parce qu'il est nerveux.
Non, mais Marc, est-ce que c'est neutre l'attitude de Djokovic hier?
Je vous écoute avec beaucoup d'attention et j'entends les arguments que vous présentez, mais il y a juste un truc. C'est que notre ami Djoko est soumis à l'épreuve du temps. Le temps qui passe. Et là, à cet Open d'Australie, il sait que c'est peut-être la dernière occasion. Il sait qu'il a besoin d'économiser ses énergies, son corps, pour rester compétitif. Et là, il y a le temps qui passe. Et les jeux qui défilent. Et dès qu'il se retrouve dans une petite situation à risque...
Il y a le vent qui passe, là.
Voilà.
On a l'impression d'être dans un cimetière.
Il fait beau en
Miami. Il devient humain. Là où c'était une force, une machine à gagner, là il est redevenu un homme. Il a 38 ans et le temps fait son œuvre. Et c'est le pire des ennemis qu'il pouvait rencontrer. Est-ce qu'il va supporter l'épreuve du temps sur les prochains matchs? Moi, c'est ça qui m'intéresse.
Eh oui, non, mais c'est ça, c'est intéressant.
Il l'a déjà montré l'année dernière. Il a perdu contre Sinner, contre Alcaraz en Grand Chelem.
Oui, mais c'est pas grave s'il perd contre eux. C'est tout le chemin avant d'arriver à Sinner.
Mais il perd pas contre les autres.
Il a fait la peur qu'il avait hier,
c'était pas contre les autres. Et quand il perd contre eux, il dit. Il y a aucun problème, ils sont plus forts que moi.
Avant de vous écouter, Jérôme, et tiens, on va aller voir Eric aussi, qui se marre en écoutant Marc depuis l'Australie. Moi, je pense que ce débat a lieu notamment parce que le geste d'agacement de Djokovic hier, c'est pas un geste contrôlé. La balle qu'il envoie et qui a deux doigts de toucher une ramasseuse de balles, c'est pas un geste qu'il fait pour gagner la foule, pour lui se lever. C'est un geste incontrôlé. C'est ça qui est un peu interpelle. Eric Salio,
c'est un épiphénomène.
C'est un épiphénomène ou pas à Melbourne? T'es d'accord avec Marc, toi?
Non, mais ce qui est dingue, c'est, moi je me trompe parce que moi je l'avais pas vu en direct. J'étais à la cantine au moment de ça.
Jamais l'info, Eric.
Non, mais vous allez peut-être me contredire. Vous allez peut-être me contredire. Mais ce geste survient.
J'étais à la cantine.
Non mais Julien, écoute-moi bien, ce geste survient alors qu'il vient de gagner le point, on est d'accord. Puisque la balle, le retour de Van de Sandschoup, il est derrière la ligne. Donc de dépit, il apprend en demi-volée et c'est totalement incontrôlé. Alors pendant toute la rencontre, il a été agacé. Il a été agacé parce que le public était pas sympa, était bruyant. Il a vécu un moment difficile. En plus, c'était la journée où il faisait très très chaud. Peut-être que ça montait au cerveau. Mais où je rejoins Marc à 100%. Et vraiment là, je suis étonné que les autres n'aient pas insisté là-dessus.
J'ai pas parlé moi, Eric.
C'est sa dernière chance parce que il a redit en conférence de presse.
Il a redit
en fin de saison dernière. Il était cramé.
L'épreuve du
là,
temps.
Tout le monde est au même niveau en termes de préparation physique. Donc, il est frais et il a besoin donc d'arriver dans les meilleures dispositions. Donc, il peut pas se permettre de gâcher d'énergie. Et là, il y avait un petit moment d'agacement. Van de Sanchou pour recommencer à mieux jouer. Mais là, il a frôlé le carton rouge, mais comme un débutant, comme quoi. Un bleu,
ouais.
Comme
un débutant. La dernière de sa carrière, peut-être, en l'Open d'Australie. Ça a l'air
pas la dernière de sa carrière. Il a jamais dit qu'en 2026, il a arrêté sa carrière. Il veut aller jusqu'à Los Angeles. C'est 2028.
Mais peut-être pour sa dernière
arrêtez
chance.
De gagner.
D'aller jusqu'à Los Angeles. Pourquoi pas?
L'épreuve du temps, Julien. L'épreuve du temps.
Il gagne un grand chelem, d'accord. Je sais pas avec vous. Vas-y,
Jérôme. Jérôme, va-t-elle le plomber?
Il a fini par être d'accord avec nous.
Non, non, moi, je suis d'accord avec toi. Sauf si tu es
d'accord avec qui là ?
Moi je dis non que ça va pas le plomber, bah ça va pas le plomber, je suis d'accord avec Marc, c'est le temps.
Bah, oui.
En fait, moi je viens de comprendre en plus qu'il faisait ce qu'il voulait un peu dans ce sport. C'est-à-dire que s'il veut jouer le soir, il joue le soir.
Toi,
s'il veut pas jouer le matin, il joue quand il veut. Et là peut-être que ça le rend nerveux de plus pouvoir choisir. Parce qu'il y a des joueurs qui sont
au-dessus de lui, il peut choisir sa place.
Exactement, ça le rend nerveux. Et donc je suis d'accord avec le fait qu'il est nerveux depuis longtemps, c'est pas son premier geste d'humeur. Il a souvent eu des grandes déclarations, le coup du vaccin. Sauf que là, il est plus au sommet et que bon, on l'écoute peut-être un peu moins et on repère un peu plus ses points faibles qu'avant.
Il est plus au sommet, il est en demi-finale de tous les tournois du Grand Chelem.
Je veux dire, il est plus le grand favori du tournoi à chaque fois qu'il s'aligne. Il y a Sinner, il y a Alcaraz et on parle un peu moins de lui. Et c'est plus ça qui le rend nerveux. Sa nervosité est naturelle chez lui.
Je suis pas sûr qu'il soit plus nerveux maintenant.
Non, il est comme avant.
Sauf qu'on le voit toujours été comme ça.
On le voit plus
parce qu'il est profond. Il essaye de tout contrôler, mais de temps en temps, ça échappe.
Et son geste d'hier.
Mais il est moins dangereux que celui qu'il a fait contre ce juge.
Parce qu'il passe à 2
mètres aux États-Unis, il a eu la balle en plein coup.
Alors, Julien, quand tu vois son attitude sur les premiers matchs et ses déclats avant le tournoi, même si tu dis non, c'est pas la fin, tu sens bien qu'il est arrivé dans un état d'esprit où il se dit c'est peut-être
et il compte
la chance de gagner.
Et toutes les questions tournent autour de ça.
Bien sûr, parce qu'il continue et que tout le monde...
C'est ce qu'il anime en même temps, c'est normal.
Voilà, pour aller chercher ce 25e grand chelem. Mais pour revenir sur la question et sur le débat, est-ce que c'est ça qui va le plomber ? Non ! Ce qui va le plomber, c'est pas sa nervosité qui va le plomber. Parce que la nervosité, il a toujours été comme ça. Il n'y a pas de changement de comportement chez Djoko. Le temps, oui. Alcaraz, Sinner, oui.
Ce qui nous montre l'image d'hier, c'est est-ce qu'il n'est pas peut-être à la limite un petit peu, justement. Peut-être un peu trop à jouer avec sa nervosité.
Franchement, il a toujours été comme ça.
Boris sur WhatsApp nous dit Djokovic, ce qui va le plomber, c'est un truc qui commence par si et finit par neuf. J'ai également d'autres message. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que ce geste hier a réveillé beaucoup d'anti-Djokovic. On sait que c'est un garçon qui fait beaucoup réagir. D'ailleurs, on se posait la question, est-ce que c'est un garçon aujourd'hui qui, on va dire, est apprécié ou qui reste un peu insupportable pour vous? Guillaume me dit, le geste de Djokovic est inadmissible. Ce joueur a une mauvaise mentalité sur le court. J'ai vu certains messages également sur le réseau hier qui disaient, mais un GOAT, un de celui qui est considéré comme le meilleur de tous les temps, ne doit pas se comporter comme ça sur
faux,
un terrain.
Ça, c'est faux, chacun son caractère.
Mais c'est ce que ça crée aussi. Djokovic
une légende aussi, et McEnroe avait des gestes d'humeur et ça faisait aussi partie du personnage. Djokovic, on aime ou on n'aime pas, de toute façon, quel que soit. Moi, j'aime pas Federer, par exemple. Je suis admiratif du grand champion et de la légende du tennis qu'il est. M'a pas transporté dans ses émotions. J'aime les mecs qui l'ouvrent un peu. Ça fait partie du personnage. Djokovic, il divise. Certes, mais il a toujours été comme ça.
Mais
il
a toujours été. T'as déjà joué contre Djokovic ?
Ouais.
Bah, raconte. Le bilan ?
Tu peux nous raconter. Compliqué. Alors, en 2006, il était très jeune, je l'ai battu.
Voilà,
merci. Et après, je l'ai joué deux ou trois fois quand il était en 1, 2 ou 3 mondial, et injouable.
Non, mais alors,
pour moi, c'était injouable.
Et sur le côté de jouer avec le public et tout ça, est-ce que tu l'as vu ?
Non, alors, contre moi, il n'avait pas besoin de jouer avec le public. j'ai pas vu ça. Non, il s'est nourri. Il est arrivé. Moi, ce qui m'a frappé chez
Djokovic. Dès que le public est un peu hostile hier, on le voit, il joue avec le public. Il s'en sert.
Ouais, parce que
c'est l'énergie positive.
Parce que toute sa carrière, il a été derrière Nadal et Federer. Ouais.
Il est arrivé après.
En termes de code de popularité. Et lui, il a pris ça, au fond de lui, comme une profonde injustice. Parce qu'à un moment donné, ce qu'il faisait sportivement et tennistiquement.
Le fameux de Zerbi, il nous dit même pas, je vais y aller, quoi.
Et un jour.
Ça a été son carburant.
Et quand il bat Federer en finale de Wim, qui sauve les balles et matchs, qui mange le gazon et qui regarde le center court de Wimbledon, c'est comme du Gary contre l'Afrique du Sud. Il est à deux doigts de faire un doigt d'honneur à tout le monde. Mais vraiment, parce que, en fait, pendant 4 heures, 15 000 personnes était pour Federer. Et là, les gars, c'est moi qui ai gagné. Et il a toujours eu ça au fond de lui.
Mickaël nous appelle au 32-16. Salut Mickaël, bienvenue dans les grandes gueules du sport.
Oui, bonjour à tous.
Tu nous appelles du Tarn-et-Garonne. Qu'est-ce que tu en penses? Toi, tu le trouves sous pression, Djokovic? Là, ça peut le plomber?
Bah non, moi je suis de l'avis de Julien, hein, pas plus que d'habitude.
Ouais, t'es un connaisseur.
Mais bon, c'est sûr que maintenant il prend de l'âge et tout, et puis je crois que voilà, il sent que maintenant, c'était avant lui, c'était lui un peu le Pogacar, le number one, et maintenant il sent qu'il devient le Polydor, parce que je pense pas qu'il, malheureusement, malgré son âge, il arrivera à gagner à nouveau un grand chelem, avec les deux énormes monstres qu'il y a devant. Et voilà, donc je crois que voilà, c'est la principale raison, et que voilà, il est pas plus nerveux qu'avant, ni moins quoi.
Il est pas plus nerveux qu'avant, hein. C'est quand même la vie qui tourne beaucoup. Et Eric, toi qui es à l'Open d'Australie, comment tu le trouves après sur la compétition? Donc là, on
quand
va le revoir.
Quand il est pas au lit ou à la grande table.
T'as mangé quoi d'ailleurs? Quand on y mange rien, la cantine à Melbourne.
En fait, il fait la cantine dans son lit, il fait le room service comme ça.
Non mais franchement, ce geste-là, c'est un geste rarissime. Je veux bien croire qu'il soit nerveux. Il est souvent en colère contre le public. Bon, c'est vrai qu'il a un rapport très particulier avec ce pays, même si je vous disais la semaine dernière qu'il adore Melbourne. Oui, mais il y a eu cet épisode où il a été refoulé.
Celui-là,
il a laissé une trace, une cicatrice énorme.
Il est le recordman de victoire.
Il a passé 3-4 jours dans un hôtel 2 étoiles, renvoyé à l'aéroport. Non, ça laisse une trace. Non, mais je pense que c'est peut-être monté au cerveau, la chaleur aussi hier. Maintenant, on parle de Sinner. Demain, il va avoir un match très difficile contre un joueur qui est très fort, c'est Mensik, le Tchèque. Alors, il a eu la bonne programmation parce que ça va être en night session. Mais Mensik l'a battu en finale à Miami l'an dernier. C'est un mec qui est redoutable, mais il peut très bien sauter demain soir.
Hein. Ah ouais, donc ça va commencer à être vraiment peut-être intéressant demain pour Novak Djokovic. On va surveiller ça. Tiens, allez, le résultat, la nervosité de Djokovic va-t-elle le plomber sur le ring des grandes gueules du sport? Vous dites oui à 53%. Eh oui, yes. Non mais je pense que c'est la tonalité de Marc.
C'est le temps.
C'est le microclimat mayennais.
Le temps qui passe.
Le temps.
Avec le temps.
Et Georges, juste une info, ouais, parce que c'est un résultat stupéfiant. Élimination de Daniil Medvedev.
Ah tiens,
6-4, 6-0, 6-3 par Lerner Tin. C'est la première fois qu'il prend une bulle en 125 matchs de Grand Slam. C'est incroyable. Donc on connaît l'affiche d'un premier quart de finale. Zverev contre Lerner Tin, gaucher, ça, entraîné par Michael Chang.
Et je tiens à préciser que ce résultat à Medvedev avait été annoncé par Eric Salio dans les paris RMC.
Pauvre Christophe Payet, je l'ai ridiculisé.
Mais qu'est-ce qu'il est fort, c'est Eric. Comme quoi, ça vaut le coup qu'il aille là-bas et pas que d'aller à la cantine, quoi, de regarder les matchs, de ressentir.
Mais tu sais, on peut regarder les
matchs de la cantine sur la télé. J'ai une petite faim là, si ça vous dérange pas.
Il est 20h30.
Allez, Eric. Oui, il est 20h30. Et Domino mène deux manches à zéro contre Bublik. Voilà, comme c'est ça, je suis complet. Allez, je peux aller manger tranquillement.
Allez, merci Eric. On suit l'Open d'Australie toujours avec toi quand tu veux. Du coup, hein, tu reviens, tu nous dis, tu nous préviens.
Oui, quand je veux.
Dans un instant, Captain Benetton qui va mettre le brassard. Hymne à l'amour pour Thomas Coville qui a battu le record du trophée Jules Verne ce matin. Et puis il y a le slam de Kitzbühel qui arrive. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quirino.
Les grandes gueules du sport à l'heure australienne, hein, puisque on était avec Eric Salio à l'Open de Melbourne il y a quelques instants. Tiens, on a vu d'ailleurs sur le Tour Down Under, Marc Madio, il y a un kangourou qui a provoqué une chute.
Oui.
Pas banal ça peut arriver que là-bas.
Ça peut se passer que là-bas.
Ouais, en Mayenne, quand on rencontre ce genre de truc. Hein. Ouais.
Non, mais il n'y a pas de chute en Mayenne.
Il n'y a pas de chute. Il n'y a pas de chute.
Tranquille.
Bon, tous tes courants vont bien? Ils ont pas été.
Écoute, oui, tout va bien. Pas de casse.
Tu voulais prévenir avant de partir en Australie? Attention, les gars, il peut y avoir des kangourous. T'as couru là-bas, Jérôme?
Évidemment. Trois fois.
Fait chaud là, mais sympa au milieu des vignes australiennes.
Non, mais c'est sympa.
C'est une très très belle course, c'est une belle organisation. Il fait très chaud.
Comme
effectivement.
DS, c'est un bel endroit.
Ouais. Mm. Le camp de base Adélaïde est très bien placé.
Très bien placé.
C'est l'été là-bas, c'est pas la course la plus compliquée à faire.
Ouais,
non, c'est la plus. Ça va. En tant que DS, c'est très sympa.
Ouais, en tant que coureur
on
aussi.
On est bien accueillis, le rythme de vie est sympa.
Ah, vous avez la belle vie.
Il y a un autre endroit où c'est très sympa. C'est en Autriche, à Kitzbühel, où il avait la descente hier sur la mythique Strife. Aujourd'hui, on est un petit peu à côté de la Strife pour la piste de slalom. Arnaud Valadon est avec nous. Salut Arnaud.
Salut à tous. On est exactement sur la Ganslerhang, juste côté effectivement de la fameuse descente de la Strife. C'est parti à l'instant avec Loïc Meillard qui est le premier. Paco Rassa va suivre juste derrière. Clément Noël en cinquième position. On a envie de revoir des Français gagner. On a envie de revoir des Français sur des podiums. C'était pas le cas la semaine dernière à Wengen. C'est parti pour Loïc Meillard qui vient, va donc signer dans quelques instants la première marque ici à Kitzbühel. On va voir si nos Français répondent évidemment présents.
Oui, oui. On voit qu'il y a beaucoup de bruit à Kitzbühel. Hein. Ça sature un peu. Vous savez qu'il y a 80 000 personnes dans la raquette d'arrivée.
J'ai vu les images de Schwarzy avec Zlatan hier.
Ouais. C'est qui est le plus impressionnant entre Schwarzy et.
Difficile.
Allez, on est à moins de deux semaines des Jeux Olympiques d'hiver en Île-en-Cortina, dont RMC est la radio officielle. Christophe, tu seras sur place d'ailleurs. RMC se met déjà en mode olympique, notamment avec nos slalomeurs qui sont très performants depuis le début de la saison. Paco Rassa, Dossard 2, se présente dans la cabane de départ. Arnaud Valadon.
Allez, Paco Rassa qui doit faire mieux que les 50 secondes et 97 centièmes de Loïc Meillard à l'instant, le Français qui a déjà signé deux victoires cette année, Görgül Adelboden. Il est quatrième au classement de la spécialité. Clément Noël est juste devant pour trois petits points. Et donc Paco Rassa en deuxième après le tirage au sort. La concentration du Français qui sera évidemment présent à Milan Cortina. On espère évidemment des médailles avec notre champion olympique Clément Noël tout à l'heure. C'est parti pour Paco Rassa donc sur ce slalom ici à Kitzbühel. Un départ un petit peu compliqué. On va voir au premier intermédiaire, est-ce qu'il va être derrière Loïc Meillard. 13 centièmes déjà de retard pour Paco Rassa qui va désormais arriver dans les enchaînements. Il manque peut-être un petit peu de vitesse et petit écart là pour Paco Rassa. Ça va sûrement se payer à ce deuxième intermédiaire ici. Il est un petit peu large, il sort pas mal large Paco Rassa, très large même, 6 dixièmes presque de retard dans la moitié seulement de cette descente pour Paco Rassa qui va peut-être payer très cher sa première partie de parcours. L'avant-dernier intermédiaire, 6 dixièmes, ça va pas le faire pour Paco Rassa. Ça va être très compliqué à l'issue de cette première manche. On va voir ce que ça va donner pour les autres favoris derrière. Loïc Meillard qui a signé, mais il n'est pas du tout dedans. Il n'est pas du tout dedans, Paco Rassa. Près d'une seconde, 95 centièmes de retard sur Loïc Meillard qui est le seul coureur, seul skieur à être passé. Difficile première manche pour Paco Rassa.
Sous les yeux de Cyprien Sarrazin, double vainqueur à Kitzbühel, qui était avec nous dans les grandes gueules du sport hier, qui nous avait raconté son émotion de retrouver la station autrichienne où il est un roi, où il a une cabine à son nom, parce que c'est comme ça que ça se passe quand on gagne la descente du Annenkamp. Ouais, à une seconde, hein, Paco Rassa, Christophe. On attend Clément Noël dans quelques instants, mais ça va être compliqué d'être
dans le rythme. Je l'ai senti vraiment dans le rythme dans ce slalom. Il était un peu à contre-temps. C'est des choses qui arrivent. Alors, une seconde, c'est pas complètement rédhibitoire, mais enfin, il y en a que deux qui sont passés.
Ouais, je pense qu'il
y a
d'autres.
Mais il est sur le podium après deux passages.
C'est bien, non ?
C'est bien parti. Ça va pas durer.
C'est comme au prologue, quand tu es parti avec deux sars numéro 2, tu étais sur le podium patate.
Moi, je faisais deuxième. J'ai jamais été sur le hot seat. Tu pouvais être deuxième à l'arrivée en partant en premier.
Ça n'existait pas, les hot seats, à l'époque où tu courais.
Si. Ah bah merci, déjà. Marc.
Quand même, moi, j'ai pas connu.
Les hot seats, je
rappelle juste qu'on n'a pas couru à la même époque.
Quand on est leader, par exemple, contre la montre, c'est l'endroit où on s'assoit face à la caméra. Et en gros, tant que votre temps ne tombe pas, vous restez là. Ce qu'on appelle aussi le kiss and cry. Voilà. Le bisou et pleure, parce que c'est un endroit où il y a beaucoup d'émotions. Patinage artistique aussi. Effectivement, on reste évidemment à Kitzbühel, parce qu'il va y avoir le passage de Clément Noël dans quelques instants. C'est pour moi également l'occasion de vous rappeler qu'aujourd'hui, on a un beau programme sur les sports d'hiver, avec notamment en biathlon la Mastart masculine à suivre à 14h15 avec Eric Perrault, avec les amis Emir Jacquelin notamment. Ce sera donc à 14h15 et la Mastart féminine à 16h40 également pour nos françaises. On sait que Lou Jean Monod et notamment Justine Brezaz-Boucher a été très performante sur ce début de week-end, elle qui est championne olympique en titre, je rappelle, de la Mastart. Perrine Laffont aussi a gagné hier en Coupe d'Europe sur du ski de boss. On a toujours un regard sur Kitzbühel, Arnaud Valadon, avec le passage à quelques instants d'Henrik Kristoffersen, un des favoris.
Relégué à une demi-seconde, peut-être que Loïc Meillard, qui signe le meilleur temps, qui est le premier à s'être élancé tout à l'heure, a réalisé une énorme performance parce que Kristoffersen prend la deuxième place provisoire avec 47 centièmes de retard. Paco Rassa est à près d'une seconde, 95 centièmes. Et là, c'est un autre gros client avant Clément Noël, Lucas Pinheiro Bretten, le Brésilien, deuxième au classement mondial de la spécialité. Le leader, c'est Atleling McGrath qui va s'élancer tout à l'heure après Clément Noël. Mais peut-être que Loïc Meillard a déjà assommé cette manche après son passage, le tout premier ici à Kitzbühel. C'est parti donc pour Lucas Pinheiro Bretten. Oula, qui a failli déjà enfourcher et être éliminé, Lucas Pinheiro Bretten.
Le haut de la piste est très compliqué. Franchement, il y a un gros mur. Ensuite, autant le final, il y a un petit replat qui rend le, on va dire qu'il y a une partie de glisse pour terminer, mais c'est vrai que le mur là à côté de la Strife reste impressionnant, même pour l'instant.
Lucas Bretten,
Lucas Bretten est derrière pour l'instant.
Genre, une seconde vingt.
Il n'est pas dans le jeu pour l'instant, donc pas courir à ça finalement avec son passage. Et on a besoin de vous pour les JO d'hiver, les gars.
Là, je pense qu'on a trouvé une paire de consultants
tous les jours
pour le ski là.
Clément Noël va passer dans quelques instants, c'est le prochain à s'élancer. Je rappelle juste Victor Mufajan des Dossards 9, également Steven Amier, Dossard 14. Le passage de Lucas Pinheiro sur la ligne, Arnaud.
Une seconde 16 de retard vraiment dans ce premier passage. Et au final, quand on regarde les intermédiaires, Paco Rassa, c'est pas tellement sur le premier tiers de ce slalom où il a perdu du temps, c'est plus à la fin. Et ça, effectivement, permet d'atténuer un petit peu notre déception de voir Paco Rassa une seconde, parce que Lucas Pinheiro Bretten, il est quatrième après 4 Dossards. Une seconde 16 seulement. Et là, Clément Noël va s'élancer. Là, ça va être très important.
Allez, on l'attend.
Le boss, le champion olympique du slalom.
Il a gagné déjà Kitzbühel dans sa carrière.
Qui a déjà gagné cette saison à Madonna. C'était au début du mois de janvier. 3 podiums pour Clément Noël, qu'on attend évidemment. Peut-être le porte-drapeau aussi de la délégation française. On le saura dans quelques jours pour Milan Cortina. Clément Noël, donc le Vosgien. Est-ce qu'il va pouvoir se rapprocher ou faire mieux que Loïc Meillard et ses 50 secondes et 97 centièmes.
Allez, il faut envoyer un message à la planète ski là, à 12 jours des JO d'hiver.
Allez, Clément Noël.
C'est les Français l'étolier.
Allez, il est dans le départ, c'est parti pour Clément Noël. Double vainqueur 2019 et l'année dernière en 2025. C'est pas mal le départ pour Clément Noël qui est appliqué, qui pour l'instant ne commet pas de faute sur vraiment ce départ ici à Kitzbühel, qui a piégé les concurrents précédents. 3 dixièmes quand même de retard pour Clément Noël qui a peut-être pas voulu prendre de risque. Cette fois-ci, on est dans la partie.
Allez, faut envoyer
un petit peu. Clément Noël qui continue, ça reste propre pour l'instant. Est-ce qu'il va y avoir assez de vitesse pour coller sur Paco Rassa, le deuxième intermédiaire qui va tomber pour Clément Noël qui sera à 4 dixièmes. Il limite la casse pour l'instant, il est deuxième provisoire. Il va peut-être passer devant Henrik Kristoffersen, mais ça semble compliqué d'aller chercher le meilleur temps avec Loïc Meillard. Troisième intermédiaire pour Clément Noël, 7 dixièmes. Il a beaucoup perdu. Ça va peut-être faire chier. Ouais, Meillard qui a été super solide, qui a été le meilleur tout simplement pour l'instant. Est-ce que Clément Noël va pouvoir limiter la casse dans cette première manche? 7 dixièmes, 79 centièmes. Il est juste devant Paco Rassa et derrière Kristoffersen, troisième provisoire.
C'est Meillard qui a réalisé un temps canon. Il s'est lancé avec le dossard numéro 1. Le Suisse, il est en pleine confiance actuellement et il a vraiment réussi un passage extraordinaire. Tous les autres grands favoris viennent buter sur le chrono du Suisse. Kristoffersen, pour l'instant, deuxième à 47 centièmes. Clément Noël et sur le podium, les gars, 79e.
Hey,
en revanche, il n'y a plus de Paco Rassa sur le podium.
Ah oui, mais attention,
c'est bien.
Il y a McGrath qui arrive et qui est le leader au classement général de la spécialité.
On reviendra vers toi pour avoir le classement provisoire de cette première manche à Kitzbühel. Allez, tout de suite, Julien Beneteau prend le brassard de capitaine.
RMC, Captain Bennett met le brassard.
Ah, Captain Bennett, t'as
c'est
vu ça?
C'est la première fois.
C'est vrai, c'est la première fois? Alors que t'as été capitaine plein de fois dans ta vie, quoi. Thomas Coville et ses 6 membres d'équipage, Frédéric Denis, Léonard Legrand, Pierre Leboucher, Guillaume Pirouel, Benjamin Schwartz et Nicolas Troussel, c'est important de les citer. Ils ont bouclé aujourd'hui le Tour du Monde sans escale en un temps record de 40 jours, 10 heures, 45 minutes. C'est le trophée Jules Verne. Ils ont battu le record de Francis Joyon qui date de 2017. Bennett, tu voulais en parler, tu voulais faire comprendre à nos auditeurs l'importance de cette performance et surtout l'importance de cet athlète Thomas Coville, on mesure peut-être pas assez dans le grand public.
Oui, et justement, je vais m'adresser à Thomas Coville directement. Cher Thomas, c'est avec une émotion particulière que je prononce ces quelques mots, quelques minutes après ce record. Après un peu plus de 40 jours en mer, Frédéric Denis, Léonard Legrand, Pierre Leboucher, Guillaume Pirouel, Benjamin Schwartz, Nicolas Troussel et toi-même, vous voilà détenteur du trophée Jules Verne à bord de ton ultime volant Sodebo. Tu m'avais confié que l'une des dernières paroles de ton papa à ton égard était une citation d'Albert Camus, « Un homme, ça s'empêche ». Toi, tu ne t'empêches pas d'accomplir des choses hors normes, d'avoir fait 10 fois le tour du monde, d'avoir franchi 12 fois le Cap Horn. Et avant 2024, vous n'étiez que 4 marins à avoir accompli le tour du monde en solitaire sans écale sur multicoque. Depuis l'Arkéa Ultimate Challenge, 4 autres vous ont rejoint. Tu m'avais expliqué, grâce au programme des Étoiles du Sport, ton trépied qui mène à la victoire. Émotion, mouvement, sensation. Si tu maîtrises tes émotions, tu contrôles tout mouvement qui t'amène les sensations. Ce triptyque pour toi représente la solidité qui amène vers la victoire. Je suis sûr qu'avec tes 6 équipiers, vous avez maîtrisé vos émotions, vous avez contrôlé vos mouvements pour éprouver vos sensations, pour accomplir ce rêve. Ce rêve, justement, parlons-en. Tu m'avais dit que tes rêves ont été dépassés grâce à ces nouveaux ultimes volants. Car jamais dans tes rêves les plus fous, tu avais osé imaginer être le skipper de ce type de bateau, volant au-dessus de l'eau, et que tu avais une chance énorme, car quand on dépasse ses rêves, c'est la définition du bonheur. Voilà ce que tu m'as partagé. Car le partage est en toi, et comme tu le dis, battre ce record avec 6 garçons qui ne l'ont jamais fait, c'est quelque chose que tu avais dans le bide. Ce partage se traduit aussi par des conseils, des discussions. Et lors de notre dernier échange tous les deux, tu m'avais suggéré de lire « Le joueur d'échecs » de Stefan Zweig. Conseil que j'ai évidemment suivi. Mais aujourd'hui, Thomas, c'est toi qui as mis à échec et mat le Cap de Bonne-Espérance, le Cap Lewin, le Cap Horn, l'Atlantique, l'Indien et le Pacifique. Alors permets-moi de te le dire, car tu seras trop humble pour te l'avouer. Tu es définitivement le plus grand de tous ces géants.
Merci Bennett pour ce message directement adressé à Thomas Coville.
C'est une lettre d'amour.
Thomas Coville, qu'on aura dans la journée hein, sur RMC, dans Bartoli Time ce soir. Peut-être même avant la fin des Grandes Gueules du Sport, on l'espère. Ils sont en train d'arriver. Là, ils sont dans le goulet, en train de rentrer à Brest, à bord de leur Sodebo ultime. Non mais franchement, Christophe, alors c'est touchant de t'entendre, hein, Bennett. En plus, comme tu le connais personnellement, forcément, ça met de l'épaisseur à tout ça. On mesure pas forcément ce qu'arrive à faire ces garçons-là.
Ouais.
Et ce garçon-là aussi, en plus.
Le mec, il renonce jamais. Ça fait, il y a eu plusieurs tentatives qui se sont révélées infructueuses, parfois au bout du bout. Et là, continuer comme ça jusqu'au bout et jusqu'à ce record. Là, dernièrement, il a quand même affronté une tempête terrible, la tempête Ingrid. Bah, il a choisi d'y aller quand même parce que il avait ce record et qui se rapprochait et donc il était dans l'obligation d'y aller. Moi, j'adore ce mec-là en particulier, qu'on a reçu plusieurs fois sur RMC, qui est un mec génial et qui est un grand aventurier. Moi, je pense que ces marins-là, ce sont les derniers grands aventuriers du sport moderne.
Je suis d'accord.
Chapeau, Monsieur Coville et ses équipiers.
Ouais, je suis d'accord avec Christophe et c'était très chouette ce que nous a raconté Comté Bennett. C'est surtout l'histoire d'hommes, ce sont les derniers grands bonhommes de l'aventure et du sport. C'est des mecs qui sont, on peut les comparer à personne. Moi, j'ai la chance d'être ami avec Thibaut Vauchel Camus. C'est pareil, quand il te parle de son sport, de son job, tu te tais, t'écoutes, parce que tu les vois partir, être tout seul au milieu de l'océan,
affronter la mer,
des tempêtes, des creux de 10 mètres. Ouais, ça faisait 10 mètres quand même. Tu t'imagines pas, toi, une vague de 2, tu recules. Eux, ils y vont, ils ont peur de rien. Ils ont quelque chose au fond des tripes qui est différent des autres. Et en plus, ils savent très très bien le raconter.
Ouais, et puis ils nous emmènent avec ça. Eux. Ouais, ils nous emmènent avec eux. Là, ils ont été interrogés quand ils ont passé le Cap Horn. Il disait, lui, c'est la 12e fois que je le passe, Thomas Coville. Et c'est la première fois pour tous les gars que j'ai avec moi à bord. Et il dit, c'est cette sensation-là. Dans les mers du Sud, qui sont les plus hostiles du monde, c'est des sensations, des émotions qu'on va chercher, et que moi, je voulais que ces gars-là le ressentent pour une fois. Et comme tu disais, Jérôme, c'est difficile de décrire, c'est qu'ils t'emmènent, ils peuvent juste t'embarquer avec eux.
Marc, c'est des histoires inspirantes, quand même. Je sais que tu vas parfois puiser un peu dans ce genre de choses, sur des athlètes dans la résilience. Hein. On sait que le vélo, on parle souvent des forçats de la route. On est sur ce type d'athlète-là. la résilience, les voileux.
C'est des gens particuliers. Moi, je ne suis pas un grand spécialiste de la voile, mais je suis avec beaucoup d'admiration le Vendée Globe, par exemple. Ouais. J'ai eu la chance de croiser une fois dans ma vie Michel Desjoyaux pendant quelques minutes.
Ouais. Pour la rencontre extraordinaire.
Il c'est le type. Enfin, j'ai 66 ans maintenant. J'ai quand même croisé beaucoup de gens dans beaucoup de milieux, dans beaucoup de domaines. Et curieusement, les quelques minutes que j'ai passées avec Desjoyaux, je les ai en mémoire. C'est exceptionnel.
C'est des moments qui sont hors du temps.
Ouais, voilà.
Nous, sans rentrer dans les détails, parce que c'est privé.
Tu peux rencontrer des grands champions dans toutes les disciplines, dans tous les milieux, show business, politique ou autre. Et ben moi, Desjoyaux, je l'ai croisé quelques minutes. Et je m'en souviendrai jusqu'à la fin de mes jours.
Je suis d'accord avec toi.
Ouais. Attention, parce que je crois qu'il vient de se passer quelque chose en Australie, les amis. Ouais, il y a un breaking news. Channels Television's breaking news. Ah bah oui, on a mis le jingle breaking news, hein. Énorme information.
Eric Salio s'est étouffé avec les boulettes à la
C'est un peu plus important.
Je vous disais tout à l'heure que Mensik pouvait pourquoi pas faire tomber Novak Djokovic. Bah, je m'étais bien trompé, on vient d'apprendre le forfait du Tchèque. Il est blessé aux abdominaux. Novak Djokovic est directement en quart de finale. Ça m'a été confirmé par mon confrère tchèque qui est à mes côtés, qui m'a dit oui, il a un problème. Je comprends rien à ce qu'il dit. Il fait du direct tout le temps. Je ne comprends rien à ce qu'il dit. Mais en tout cas, il est bien informé.
Donc là,
Mensik est forfait.
On est dimanche,
et donc Djokovic.
Il jouera
le vainqueur de Musetti Fritz qui vont s'étriper demain en plein cagnard.
Il y a un vrai paradoxe dans ce que tu viens de nous dire, parce que tu viens de nous dire je ne comprends rien à ce qu'il dit, mais il t'a confirmé.
Problème abdominaux, il m'a dit.
Donc Djokovic, non mais attendez, c'est une information hyper importante, hein, parce qu'on dit que Djoko doit gérer ses efforts justement pour aller loin, grand chelem. Il aura un match en moins.
Il joue mercredi, on est dimanche, il y a deux jours off.
On peut pas s'imaginer. Le destin vient peut-être à son secours.
Comment t'appelais ça, le temps là ?
Le temps qui passe.
La flèche du temps, c'est tout.
Après, il aura vendredi contre Sinner.
Cette information, merci Eric Salio, hein, cette information est peut-être déterminante pour la suite de l'Open d'Australie, pendant que les autres vont continuer à aller sur les cours. Évidemment, on suit tout ça.
Et autre info, sur RMC. Encore, la qualification de Dominor qui a explosé le public en 3-7. Donc Dominor jouera son quart de finale contre Carlos Alcaraz. Là, ça va se compliquer puisqu'au face-à-face, il y a 5-0 pour l'Espagnol.
Ouais, Dominor, la star australienne. Donc il sera à la maison à Carlitos Alcaraz qui n'a jamais été en demi-finale de l'Open d'Australie. Allez, on revient dans un instant. On va remonter le temps, les amis. Il y a 13 ans, Lance Armstrong passait aux aveux. À tout de suite.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quirino.
Les grandes gueules du sport, dans un instant, retour de slalom de Kitzbühel, évidemment. On suit ça avec Arnaud Baladon. Pour l'instant, Clément Noël, 5e et le premier français provisoirement. Ensuite, passage d'autres français, évidemment. Le vestiaire, comment gérer la vie privée quand on est sportif de haut niveau, à venir après 11h. Mais tout de suite, les GG remontent le temps il y a 13 ans. Un interrogatoire en direct à la télé américaine dans l'histoire du sport. Lance Armstrong face à la star du petit écran, Oprah Winfrey.
Oui ou non ? Vous avez déjà eu recours à des produits dopants pour améliorer vos performances ? Oui ou non, durant vos 7 victoires lors du Tour de France, vous avez déjà pris des produits dopants ?
Did you ever take banned substances or blood dope?
Yes.
In your opinion, was it humanly possible?
Selon vous, était-il humainement possible de gagner le Tour de France sans avoir recours au dopage 7 fois de suite ?
Not in my opinion.
Alors c'était incroyable, hein, le 15 janvier 2013, il y a 13 ans, les aveux d'Armstrong. Moi je me rappelle, c'était pendant la nuit ici, on avait parlé pendant toute la matinale avec Jean-Jacques Bourdin. C'était le grand événement. Armstrong qui en fait est tombé, il fait ses aveux parce qu'il a été balancé en fait avant, surtout par ses anciens coéquipiers de l'US Postal à l'USADA, donc dans l'organisme antidopage américain. C'est comme ça qu'il tombe pas sur un contrôle positif, c'est important de le rappeler. Du coup, la question qu'on se pose ce matin, 13 ans après,
il avait été contrôlé positif, mais l'UCI avait mis ça sous le tapis.
Avait dit que ce contrôle était, on va dire, pas réglementaire. La lutte antidopage passe-t-elle forcément par la délation? C'est la question que l'on se pose ce matin. Tiens, Chris, j'aimerais qu'on commence par toi.
Ben, je pense qu'aujourd'hui, c'est l'un des moyens les plus efficaces. On a vu que la lutte antidopage en matière de contrôle n'arrive pas à grand-chose. Et de tout temps, finalement. Les grandes affaires de dopage, elles se sont révélées au grand public, soit par l'utilisation d'enquêtes judiciaires ou d'enquêtes journalistiques, soit ça a été le cas, par exemple, de l'affaire Festina. Il y a eu de temps en temps des contrôles, mais ça remonte très loin. Ben Johnson, une des plus grandes affaires de dopage, là c'était un contrôle positif, mais depuis effectivement, que ce soit l'affaire Balco, que ce soit l'affaire Armstrong, ou que ce soit l'affaire du dopage d'État en Russie, ça s'est fait grâce à des informations données. Alors, je veux pas parler de délation, parce que ça a une connotation.
Il y avait eu le contrôle quand même de
très péjoratif, ça rappelle les années sombres, et il y a beaucoup de gens, notamment dans les réseaux sociaux, qui font ce genre de trucs, mais là c'est un peu à la manière que utilisée par les juges en Italie. On prend des repentis, on travaille avec eux et ils te finissent par te donner des pistes. Je pense que c'est une vraie piste de réflexion et que ça passe par là, même si le principe peut paraître un peu surprenant et pas toujours très chic, mais bon, si on veut faire tomber les gros réseaux, si on veut faire tomber les gros trafiquants et les gros dopés, c'est ce qu'il faut faire.
Je rappelle juste, je disais, Contador est tombé sur un contrôle quand même au Clambutérol. Souvenez-vous, c'est le point de départ de ses disqualifications victoire sur le Tour de France. Jérôme, il y a quelques temps, sur notre podcast Vélo Grand Plateau, vous retrouvez sur les plateformes de téléchargement, on avait eu des gens de la FLD qui nous disaient, c'est important aujourd'hui que des personnes dans le peloton peut-être nous donnent des informations pour trouver peut-être les tricheurs. Ça passe par là ?
Moi, je souhaite absolument pas que ça passe par là, parce que déjà, la lutte antidopage, quand on est dans un sport comme le nôtre, coûte très cher. Nous, les équipes, cotisons à très haut niveau pour organiser nos contrôles. En interne, on remet des moyens pour cela. Et il y a des organes qui sont compétentes. Et en plus de cela, je pense que, quelle que soit la délation faite, elle va évidemment dépendre de qui est balancé et de qui est suspecté. Je fais partie de ceux qui sont aujourd'hui très sceptiques sur la capacité dans mon sport et dans d'autres sports de mettre à mal un très grand champion dopé. Je pense qu'aujourd'hui, je fais partie de ceux qui disent qu'il n'y aura plus de grandes affaires de dopage. C'est trop, ça va trop loin, c'est trop puissant, et le sport et le sportif est trop puissant. L'économie tourne autour de ces grands-là. Donc la délation, pourquoi pas, pour aider les enquêteurs, pour avoir, comme dans la justice traditionnelle, des indicateurs, des gens qui peuvent donner. Mais regardez l'OCLAEPS aujourd'hui, les moyens qu'ils ont.
Les gendarmes qui s'occupent de ça, effectivement.
Ils n'ont pas de moyens. Et même s'ils trouvent des moyens et trouvent des choses, on va leur dire, écoutez, vous n'êtes pas assez puissant, on s'arrête là. Le dernier cas, les derniers cas dans notre sport, avec un grand champion de l'époque, on a arrêté toute procédure parce que le mec était trop puissant, et son équipe aussi.
Marc, en quelques mots ?
Moi, je pense qu'aujourd'hui, la lutte antidopage fonctionne comme la justice en général. C'est-à-dire que quand il y a des situations difficiles, il y a des enquêtes, et les enquêtes, c'est l'accumulation de petits détails qui viennent de différents horizons, qui permettent éventuellement d'aller plus loin. Alors, c'est vrai que ces derniers temps, on a un peu quand même l'impression que on a beaucoup d'enfants de cœur maintenant dans le sport, dans tous les sports, et il n'y a plus de vilains tricheurs.
Et les performances sont de plus en plus incroyables.
C'est des situations difficiles à appréhender, parce que si on est trop dans la suspicion et dans la tricherie, on n'avance plus et on ne s'entraîne plus. Donc, est-ce qu'il faut rester sur quelque chose qui ressemble à une forme de naïveté et se dire, on s'entraîne, on travaille, on essaye d'être le plus performant possible, et on verra bien où ça nous mène à la sortie. Moi, je crois quand même à une forme de justice et à une forme de destin qui se réalise. Tôt ou tard, ça met parfois de plus en plus de temps, mais on finit toujours par savoir la vérité. Et je pense que en ce qui concerne le dopage, on ira vers des situations où on apprendra les événements ou les tricheries avec plusieurs années ou dizaines d'années derrière.
Malheureusement.
Il y a 13 ans, les aveux d'Armstrong nous font encore réfléchir sur la lutte antidopage d'aujourd'hui. Tiens, rapidement les amis, avant de partir pour la troisième des grandes gueules du sport, le slalom de Kitzbühel, Arnaud Valadon, on en est où ?
Ah, c'est pas terrible pour nos Français. Steven Lamier vient de chuter, tout comme le leader de la discipline, McGrath. Graaf. Clément Noël a glissé à la 7e place, à 8 dixièmes du leader, toujours Loïc Méliard, mais à seulement 3 dixièmes du podium. Donc il y a un espoir pour la deuxième manche. Et enfin, Paco Rassa est au bord du top 10. En tout cas, il est dans le top 10, mais juste au bord. Il est 9e, à près d'une seconde du leader et à une demi-seconde du podium.
Et Michaela Schifrin a dominé la première manche du slalom également en République tchèque. Allez, on revient dans un instant pour la dernière heure des grandes gueules du sport sur RMC.
RMC jusqu'à midi,
les grandes gueules du sport.